Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahi la yumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, rabbi zidna ilma ya kareem, rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri, wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Bishafa'un islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui me donne la possibilité en ce soir du mois de Rajab de nous réunir après la salat al-Isha, combien en congrégation, pour parler du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement pour parler de la parole bénie du prophète Mohammed Mustafa, alayhi afdalu salat wa atamu taslim. Et ça, c'est une grande chance, c'est un honneur de la part d'Allah azza wa jal, que d'accorder la possibilité à un mu'min, à un musulman, d'écouter les paroles du prophète alayhi salat wa salam. Les paroles du meilleur des hommes, la meilleure des créatures qu'Allah Azza wa Jal a envoyé sur ce dunya, et les paroles que cet homme a prononcées, c'était les meilleures paroles. Le prophète alayhi salatu wa salam a reçu certes le wahi de la part d'Allah, la révélation, c'est-à-dire le Coran, mais les autres paroles que le prophète alayhi salatu wa salam disait sans le wahi direct de la part d'Allah, ce qu'on appelait les ahadith, c'était ce qu'on appelait des jawami'il kalim, des paroles concises mais remplies de sens qu'Allah a inspiré, mettez dans le cœur du prophète alayhi salatu wa salam. Ce qui veut dire que tout ce que notre prophète alayhi salatu wa salam disait, cela émanait d'Allah azza wa jal. Comme Allah ta'ala dit le Coran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Que notre prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais prononcé une parole de sa propre personne. C'est pas qu'il réfléchissait et il disait à propos de la religion ce que na'oud billah lui passait par la tête. Non. Ce que notre prophète alayhi salatu wa salam disait, c'était ce qu'Allah azza wa jal mettait dans son cœur. C'est pour ça que les paroles du prophète alayhi salatu wa salam ont une valeur inestimable pour un mu'min, pour un musulman. Et venir à un endroit dans une mosquée et retourner chez soi en mémorisant ou en comprenant une parole du prophète alayhi salatu wa salam, c'est un cadeau, c'est un trésor de la part qu'Allah azza wa jal nous accorde. Que quelqu'un retourne chez lui avec une parole du prophète alayhi salatu wa salam, c'est un trésor qu'Allah ta'ala lui a accordé, et nous devons donc prendre considération de l'importance donc de ces paroles. Alors les fois d'avant, on avait assez longuement parlé du hadith concernant Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, ainsi que les autres sahaba radiyallahu anhu majma'in, à propos de la bataille de Tabouk. Lorsque Ka'b ainsi que d'autres sahaba n'avaient pas participé à la bataille, et qu'au retour, ils ont dû s'excuser auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et que parmi les sahaba, il y avait une catégorie, ce qu'on appelait les hypocrites, ceux qui faisaient semblant d'être musulmans, qui ont accepté l'islam par intérêt. On va se rapprocher un petit peu plus, Inch'Allah. On n'a pas besoin de parler trop fort. Il y avait des personnes qui avaient accepté l'islam par intérêt, mais qui dans leur cœur restaient ennemis de l'islam. Et donc ces gens-là, ils n'hésitaient pas à mentir. Et donc pour s'excuser auprès du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont menti. Ils ont dit au prophète d'Allah, on avait telle raison, telle excuse. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qui est rahmatan lil alamin, qui est une source de bénédiction, c'est pas le genre de personne à aller mener l'enquête, à aller regarder ce que c'est vrai et c'est pas vrai pour les punir. Ils ont dit ça, khalas, c'est entre eux et Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a accepté leurs excuses. Par contre, Ka'b et ses deux autres compagnons, ridwanullahi alayhi majma'in, ils ont dit la vérité. On a vu également qu'à un moment donné, Ka'b a failli flancher. Sa famille lui a dit, regarde, ces gens-là, ils ont dit, ils ont menti, mais ils s'en sortent bien. Alors vas-y, dis ça, tu n'es pas n'importe qui, toi. Ka'b, tu as participé à la bataille de Badr. Tu fais partie des meilleurs, de l'élite des sahaba. Donc notre prophète ne te fera rien. Ka'b, à un moment donné, a dit que j'allais sombrer dans cette pensée satanique, mais Allah Ta'ala a mis le sabbat, Allah Ta'ala a renforcé ma foi, et Allah Ta'ala a mis dans mon cœur que non, un mu'min ne ment pas. Et alhamdoulilah, j'ai refusé cette idée. Et j'ai dit la vérité au prophète alayhi salatu wassalam. Et puis, la fin de l'histoire, c'était que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu l'ordre de la part d'Allah d'isoler ces gens. Personne n'avait plus le droit même de faire salam à ces gens. Et cette épreuve a duré plus de 40 jours jusqu'à ce qu'à un moment donné, Allah Ta'ala a envoyé le wahi qui a annoncé au prophète alayhi salatu wassalam qu'il a pardonné à ces trois personnes. Et le verset, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Donc l'histoire se trouve dans le Coran, et jusqu'à subhanallah le qiyamah, Allah Ta'ala, il y aura des gens pardon qui vont lire ces paroles révélées par Allah Azza wa Jal, et ce sera un honneur pour ces trois sahaba, parce qu'Allah Ta'ala de ce verset atteste que ces gens-là ont reçu le pardon et ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en conclusion, on s'est arrêté là. On n'avait pas trop conclu, on avait cité quelques points, mais un des messages les plus importants, une des leçons surtout des sagesses à retenir, c'est que quand une personne dit la vérité, parce qu'on parle du sidq, le fait d'être véridique, quand on dit la vérité, on a la nusrat d'Allah azza wa jal. On a l'aide d'Allah. Même si en disant la vérité, on connaît des phases un peu difficiles, mais du moment que quelqu'un est véridique, il ne ment pas, à un moment donné, il va voir la nusrat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui ment, il va peut-être s'en sortir aux yeux des gens. Mais à un moment donné, soit c'est dans ce dunya que les gens vont comprendre qu'il était un menteur, donc qu'il est un hypocrite, soit le jour des comptes, Allah ta'ala va faire en sorte que les gens vont comprendre la réalité, la face cachée de cette personne. Et parmi les sagesses, les ulama, rahimahumullah, disent que même si le monde entier est satisfait de vous, le monde entier vous fait confiance, le monde entier vous estime, mais si Allah subhanahu wa ta'ala sait que vous êtes, que la personne est un menteur, est un hypocrite, alors jamais cette personne ne connaîtra la tranquillité du cœur, ni cette personne ne connaîtra le qaboul, ne sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le Coran à propos de ce verset, de ce récit, يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. C'est-à-dire que même si ils font, ces hypocrites là, ils jurent, ils font le qasam que par rapport à leurs excuses, afin que le prophète Ali salat wa salam soit satisfait d'eux. Et Allah Ta'ala dit que même si le prophète est satisfait de ces gens, accepte leurs excuses, mais Allah Ta'ala ne les acceptera jamais. Tandis que quand quelqu'un est dans la droiture, quand quelqu'un est en accord avec les ordres d'Allah Azza wa Jal, même si les gens ne vous aiment pas, même si les gens n'acceptent pas vos choix, et ça c'est quelque chose d'important à ancrer dans nos cœurs, dans les décisions qu'on prend dans notre vie, nous devons toujours prendre des décisions qui sont en accord avec notre dîn. Et ne jamais avoir honte de notre religion. Ça il faut l'enseigner à nos enfants. Jamais avoir honte d'être musulman. Même si, par exemple, en pratiquant une sunna, on sait que des gens ils vont vous regarder de travers. Par exemple, je travaille, fonctionnaire, enseignant ou dans un bureau, je ne sais pas quoi, arrivé l'heure de la salat, surtout en ce moment, la salat du maghrib est à 17h47-48, d'accord ? Je suis étudiant, je sors de l'école à 17h30, je suis lycéen, d'accord ? Il me reste 10 minutes pour faire la salat du asr, 10 minutes pour être en conformité avec les ordres de mon khaliq, de mon créateur. J'ai deux possibilités, soit je me dis, je fais la salade parce que j'adore Allah. J'adore pas ces gens. Le jour des comptes, c'est Jean-Paul, c'est Christophe, c'est Catherine, Christopher qui va venir me sauver le jour des comptes, là. Même si eux, ils me regardent de travers. Mais est-ce que c'est eux qui viennent me sauver le jour des comptes? Le jour des comptes, on a besoin de qui? On a besoin d'Allah Azza wa Jal. Donc, soit je me dis que j'obéis à mon Seigneur, mon Créateur, même si les gens, ils comprennent pas ce que je fais, je vais dans un endroit sans perturber les gens, bien sûr. Sans causer préjudice à quiconque, je fais ma salat parce que je suis mu'min. Je fais ma salat parce que je suis mu'min. J'ai la foi dans mon cœur. J'ai été créé pour adorer Allah. J'ai pas été créé pour faire plaisir à ces gens. J'ai pas été créé pour que les gens disent que lui c'est un bon. Lui il est intégré. Lui... Non! J'ai été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Ensuite, j'essaie de construire au maximum ma foi et ma vie dans la société. Et c'est tout à fait possible. Ou alors je me dis que, de Moussa Gade, ça est bizarre, il n'est pas normal, il n'est pas comme nous, il ne faut pas parler avec lui. Donc, je vais rater délibérément ma salat uniquement pour ne pas déplaire aux gens. Et je crois, je suis persuadé que avec ça, je suis dans le vrai, avec ça, les gens vont m'apprécier. Non. Les gens ne vont pas vous apprécier. Parce que le prophète alayhi salatu wasalam dit, Inna Allah ta'ala, idha أحب شخصا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فحب. فسان dit que lorsque Allah Ta'ala aime quelqu'un, Allah Azza wa Jal lance l'annonce, le i'lan à Jibril alayhi salam. Donc Gabriel dit, oh Jibril, j'aime cette personne et je t'ordonne de l'aimer. Allah Ta'ala dit à l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, j'aime cette personne et oh Jibril, je te donne l'ordre d'aimer cette personne. Quand est-ce qu'Allah Ta'ala va aimer quelqu'un? Quand quelqu'un est riche? Si j'ai réussi mon doctorat, Allah va dire, oh Jibril, maintenant lui il a ce doctorat, je l'aime, na'oud billah. Quand quelqu'un vient d'une grande famille, quand quelqu'un a acheté une grosse Mercedes, après 40 ans, après 20 ans, 10 ans d'économie, il a acheté la plus belle des voitures du quartier, il en est fier. Est-ce que c'est là qu'il aura shahada qu'Allah l'aime maintenant? La wallah. Quand est-ce qu'Allah aime quelqu'un? Quand la personne observe les ordres d'Allah. Quand la personne reste dans les limites. Quand la personne brûle d'amour pour Allah et que la personne a de son cœur la crainte d'Allah Azza wa Jal. Que même si personne ne vous voit, personne ne nous voit, on obéit à Allah. Même si personne ne nous voit, on ne peut pas désobéir à Allah parce qu'on aime Allah. Et on ne veut pas décevoir Allah Azza wa Jal. Quand quelqu'un s'éloigne du haram pour Allah, quand quelqu'un a la possibilité de faire une action qui lui apporte du plaisir immédiat, une jolie fille, moi j'ai 18 ans, 19 ans, pas moi, hein, fini vieux moi, 18 ans, 19 ans, jolie fille qui me fait des avances, d'accord, je sais que je claque les doigts, je l'ai dans mon, avec moi pour pas dire dans mon lit, excusez-moi, je claque les doigts, je l'ai, quand je vais où je veux, hein, on va s'arrêter à la had. Et donc, je peux faire le zina, mais je m'éloigne parce que j'ai iman dans mon cœur. Parce que je me dis qu'Allah m'observe, qu'Allah me regarde, je ne peux pas décevoir mon Khaliq. J'ai mes amis, mon cercle d'amis depuis la seconde, première, je suis en terminale, hein, ils disent que, bah, allez, on est majeur. Je suis en terminale, on n'est pas majeur, mais si on était un petit peu en retard, et on a 18 ans, allons le bar d'en face, on va boire un petit coup ensemble, à les Arabes. Des complexes à où? D'accord? Soit, je fais plaisir à ces gens et je bois un petit coup pour montrer que je suis pas Ben Laden, que je suis un musulman décomplexé, ou alors je me dis que non, il y a mon Khaliq, je suis mu'min. Allah m'a créé pour l'adorer, pas pour faire plaisir aux gens. Ça qu'Allah aime ce genre de personne. C'est quelqu'un qui est dans un endroit, un environnement protégé. Quelqu'un qui est dans un environnement protégé, où il peut faire que des bonnes actions et où les péchés sont loin. Donc quelqu'un qui habite, mashallah, dans les terres saintes, à Makkah al-Mukarram, à Al-Madin al-Nabawiyya, d'accord, avec tous les vertus qu'ils ont, subhanallah. Mais le mujahada qu'ils doivent faire, c'est pas comme le nôtre. L'alcool est interdit là-bas. La vente de cigarettes est interdite autour des mosquées. Et la drogue, n'en parlons même plus, d'accord. Les femmes sont couvertes. Il n'y a pas de risque de zina. Il n'y a pas de risque de voir une femme, de voir un brin de cheveux. Si je fais le zina, il faut aller chercher, il faut avoir des contacts, un réseau de je ne sais pas quoi, pour aller avoir de l'alcool, il faut... Vraiment, pour quelqu'un qui fait des péchés, il faut qu'il soit motivé. Il faut qu'il soit extrêmement motivé pour faire le haram. Tandis que nous, on est dans un contexte où toutes les conditions sont réunies pour qu'on fasse le haram. Vous ouvrez votre porte, le matin, il y a le haram devant votre porte. Vous allumez la radio, il y a le haram, il y a la musique. Vous cliquez sur Internet, vous allez voir les nouvelles sur votre hotmail. On monte un gros madame, un madame, elle est comme ça, elle a 20 ans, elle habite dans ton quartier, tu lui plais, etc., etc. Vous regardez vos messages, vous voyez une femme et tout, qui vous envoie des... Bref, quoi, tout ce que vous savez. C'est-à-dire, le haram est au bout de vos yeux, au bout de vos oreilles, au bout de votre doigt. Un clic, vous avez le haram quand vous voulez. Vous voulez télécharger telle vidéo porno, c'est gratuit. Les trois premiers téléchargements sont gratuits. Cliquez, vous avez. C'est comme ça. Il se fut une époque où pour avoir des trucs pas bien, il faut aller, il avait télé Freedom, il fallait lever à 8 minutes du minuit pour aller regarder. Les anciens, ils savent, d'accord? Allah nous a protégés, alhamdulillah. D'accord? De nos jours, le haram est partout. Votre garçon de 10 ans, il a peut-être vu ce que vous avez jamais vu de votre vie. Tout ça au nom de la liberté sexuelle. Donc d'un contexte comme ça, d'un contexte où tous les péchés sont là, le zina est partout, la musique est partout, l'alcool est partout. On a beau dire attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on a beau interdire la publicité pour l'alcool dans les matchs de foot et tout, mais on sait pertinemment, vous avez votre boîte aux lettres, il y a Whisky, il y a Johnny Walker, il y a Johnny, je sais pas, il y a tout ce que vous voulez qui est là. Il a dit, tous les plus grands péchés sont accessibles. Le riba qui provoque la colère d'Allah Azza, l'intérêt, c'est partout. On met des grandes affiches, acheter telle voiture, acheter telle maison, acheter tel produit, facilité de paiement 10 fois, 12 fois, 2%, 3% de taux, etc., etc. Tous les péchés qui provoquent la colère d'Allah Azza sont autour de nous. Vous faites un pas, vous êtes noyé. Mais dans une situation comme ça, une personne qui reste ferme de son dîn, ça ne veut pas dire être un extrémiste. Hein? Est-ce que le fait de ne pas boire, de ne pas utiliser l'intérêt, de ne pas faire l'adultère, de ne pas écouter de la musique, ça fait de moi un être dangereux pour la société. Là, wallah, c'est quelqu'un qui se protège. Comme dans d'autres religions, chez les juifs, les yahouds aussi, ils aussi s'éloignent de la plupart de ces choses-là. Chacun pratique sa religion en fonction de sa révélation. Donc, quelqu'un d'un contexte comme le nôtre, il sait se préserver. Assurément, Allah Ta'ala va l'aimer. Parce que le prophète dit « Man taraka shay'an lillahi » Quand on délaisse quelque chose pour Allah, Allah Ta'ala vous accorde quelque chose de mieux. Allah vous accepte pour faire son ibadat et vous donne le goût, le ladha, le plaisir qu'il y a de le sujoud, le plaisir qu'il y a de la lecture du Coran. C'est pas comme il lit le Coran juste pour finir mon khatam de Ramadan. Quand le mu'min, Allah a mis l'amour de son cœur pour les actions, les bonnes actions, quand il lit le Coran, il ressent quelque chose que personne ne peut ressentir. Quand il fait le qiyam ul-layl, il se lève à 4h du matin, qu'Allah nous accepte pour faire le tahajjud, il ressent quelque chose que personne ne peut acheter. Que même ceux qui se droguent, le plaisir qu'ils ressentent, ça n'a aucun rapport avec la quiétude qui descend dans le cœur d'un mu'min qui se lève pour faire la salat, pour faire le qiyam ul-layl, ou pour un mu'min qui fait le saum le lundi, le jeudi, pour Allah Azza wa Jal. Pas parce qu'on l'oblige, pour Allah Azza wa Jal. Le plaisir qu'il a, ça c'est indescriptible. Donc quand quelqu'un reste éloigné du haram, il fait des bonnes actions et il est sincère, Allah Ta'ala va l'aimer. Comment encore savoir qu'Allah nous aime quand le Prophète dit man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'a. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il vit de ce dunya avec conviction que ça c'est une prison pour moi et qu'il respecte les ordres d'Allah, il fait sabab, il crase son nafs comme on dit, et qu'il obéit à Allah, et intérieurement son vœu le plus cher c'est quoi? C'est quand est-ce que je retourne auprès de mon Seigneur pour obtenir les récompenses et pour qu'Allah m'accepte et me rétribue. Il est pressé de retourner auprès d'Allah. Ça ne veut pas dire qu'il veut se suicider, non. Il vit de ce dunya, mais il fait tellement de mujahada, et pour lui l'objectif c'est quoi? Le contentement d'Allah et le paradis. C'est ça l'objectif de sa vie. Son objectif, c'est pas de passer à un studio, de studio à F2, et ensuite de F2 à F3, et ensuite à F4, après être propriétaire. Son objectif, c'est pas de passer à telle voiture, à tel grade, jusqu'à arriver à tel degré. Non! Son objectif, c'est quoi? C'est pas le dunya. C'est obtenir le contentement d'Allah et obtenir le paradis. Ça c'est un mu'min. Et donc, celui qui est prêt, qui veut rencontrer Allah, qui n'importe quel monde, d'ici malécalement, vient tout de suite, c'est le plus beau cadeau que je retourne auprès de mon Seigneur. Allah Ta'ala aime cette personne. Allah Ta'ala souhaite également le rencontrer. Mais pour arriver à ce stade, mes chers frères, il faut être balèze. Pour arriver à ce stade où n'importe quel moment, d'ici malécalement, vient, supposez, hein, malécalement devant la porte, on est à 50 là, il va prendre un seul, volontaire, qui lève le doigt? Idriss Moussa, il lève le doigt? Non, Idriss Moussa s'assoupit. Qui est volontaire? Qui peut lever le doigt? Tout le monde a cap. Elle dit, mon madame, mon enfant, l'école, elle a besoin d'acheter ses effets, pas qu'on fait course, ou alors, etc. On est humain, on reste humain. On reste attaché au bien de ce monde et au plaisir de ce dunya. Et puis, on se dit que j'ai manqué telle salade, il me manque telle somme, j'ai pas fait tel carême, je dois l'argent à telle personne, il y a tel manquement, je dois réparer ça, je dois me reconcilier avec telle personne. C'est-à-dire, personnellement, c'est dur qu'une personne se dise que maintenant, je peux retourner auprès d'Allah, je me sens prêt. Celui qui se sent prêt, c'est quelqu'un qui mange à Allah un degré de foi adib, exceptionnel. Donc, quand quelqu'un, il obéit à Allah, il reste éloigné des péchés, il accomplit les bonnes actions, Allah Ta'ala va l'aimer. Et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Allah, comme on l'a dit tout à l'heure, Allah Ta'ala va dire à Jibril, oh Jibril, j'aime cette personne et je t'ordonne de l'aimer. Et ensuite, et le hadith dit bien, yu'ayyinuhu Allahu rajula lahu. C'est-à-dire, Allah Ta'ala précise, yu'ayyin, c'est ta'yin, préciser le nom de la personne. S'il s'appelle Idriss Moussa, Allah Ta'ala va dire à Jibril que Idriss Moussa, c'est quelqu'un que j'aime, il faut l'aimer. Si c'est Ahmad Bilal, Ahmad Bilal. C'est Mohamed Ishaq, Mohamed Ishaq. Regardez quel honneur, subhanallah. Quel izza. Si demain quelqu'un dit que, tu sais, monsieur Barack Obama, lors du G8, il a prononcé ton nom. Il a dit que tel citoyen, c'est un bon citoyen. Il dit, t'es, à moins, Barack Obama prononce mon nom, la prononce le nom de Youssouf Djimba. Oh, t'es, c'est le grand succès. Moi, un Djimba, Barack Obama prononce mon nom, etc., etc. Je dis Barack Obama pour pas qu'on parle de politique française, d'accord? Hada. Subhanallah, Allah Rabbul Izzah, Allah Seigneur des mondes, qui dit au plus grand des anges que j'aime telle personne et je t'ordonne de l'aimer. C'est déjà une consécration. Et la suite du hadith, فَيُحِبُّهُ Jibril. Et Jibril va aimer cette personne parce qu'il obéit à Allah Azza wa Jal. ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ. Ensuite, Jibril fait passer le message avec tous les malaïkas qu'il y a dans les sept cieux. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ حُلَانَ فَحِبُّهُ. Je vous annonce qu'Allah Ta'ala aime telle personne. Oh, malaïka de tous les cieux. Il y a des millions, des milliards d'anges, plus qu'il y a de créatures de ce dunya. Je vous ordonne, vous aussi, d'aimer cette personne. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. Les gens des cieux aiment cette personne. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ. Ça, c'est ça qui nous intéresse. Et là, Allah Ta'ala fait en sorte que les gens acceptent cette personne. Al-Qaboul, c'est quoi? C'est quand les gens vous aiment. Quand vous voyez la personne, c'est comme si que, comme on dit, il y a un flux entre lui et moi qui fait que je trouve que c'est quelqu'un de bien. Sa tête me plaît ou je lui fais confiance. Les gens vont finir par l'aimer. Pourquoi? Parce que Allah l'aime et tous les malaïkas aiment cette personne et Allah met dans le cœur des gens l'attachement pour cette personne. Tandis que quand on recherche le contentement des gens, en désobéissant à Allah Azza wa Jal, les gens, un moment donné, finissent par voir que vous êtes un hypocrite, vous êtes un menteur. Hadith est donc rapporté par Imam Bukhari. Donc, qu'on comprenne bien à travers cette histoire, la leçon à retenir, c'est que quand on recherche le contentement d'Allah et qu'on est véridique, Allah Ta'ala nous accorde l'honneur, le izza, tandis que celui qui désobéit à Allah, même si en apparence, le menteur en apparence, il est sauvé, mais soit de ce dunya, Allah va faire voir aux gens qu'il était menteur, ou le jour des comptes, alors là, si c'est le jour des comptes, sa punition sera encore plus sévère. Ça, ça rejoint le hadith, hein, dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit: "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, kafahu Allahu ma'unatan nas wa man iltamasa ridan nas." Hadith est long, veut dire que en résumé, celui qui recherche le contentement d'Allah, même si les gens ne sont pas contents de lui, il aura le succès, en ce sens. Tandis que celui qui recherche le contentement des gens, et il fait fi du contentement d'Allah, il ne se préoccupe pas du contentement d'Allah, parce qu'il veut être comme tout le monde, il veut être accepté des gens, la personne ne connaîtra jamais le succès, et la personne aura de quoi avoir peur le jour des comptes. Ah ben. 20 minutes donc, c'était pour rappeler un petit peu la leçon à retenir de l'histoire de Ghazwatut Tabuk. Encore 10 minutes, Inch'Allah, pour rester dans la demi-heure, Inch'Allah. Hadith Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, on passe à notre hadith après, subhanallah, après une longue période. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه حديث رواه البخاري ومسلم دل كان النبي عليه الصلاة والسلام dit que الصدق, la véracité, le fait d'être véridique, ça amène vers les bonnes actions. Il y a quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui sera accepté par Allah Azza wa Jal pour accomplir des bonnes actions. D'abord, c'est une traduction. Hein? Et quand on fait des bonnes actions, ça amène vers le Jannah, vers le paradis. Et quand un mu'min, quand un homme, il prend l'habitude toujours d'être véridique, de dire la vérité, Allah Ta'ala l'inscrit parmi les siddiqs, parmi les grands véridiques. Tandis que le mensonge, yahdi le fujur, pardon, le mensonge emmène vers les péchés. Quelqu'un qui ment, il va se dégrader jusqu'à ce qu'il termine comme un fasiq, comme un pécheur endurci, quelqu'un qui cumulera les péchés. Et les péchés, yahdi il an-nar, les péchés amènent vers l'enfer. Et lorsqu'un homme ment, et il continue à mentir, Allah Ta'ala ordonne donc aux anges d'inscrire cette personne parmi les kazzab, parmi les grands menteurs, nasallallahu al-afiyah. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam commence en nous disant alaykum bis-sidq. Le prophète alayhi salatu wa salam ordonne aux musulmans d'être véridiques. Et on avait dit en introduction il y a pas mal de temps que quand on dit sidq, être véridique, c'est as-sidq bil-lisan wa as-sidq bil-arkan. As-sidq bil-lisan, c'est être véridique par la langue, c'est le fait de ne pas mentir. Ça, c'est le sens le plus connu. Et ça, il n'y a pas besoin de développer. Hein, tout ça, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, être véridique par les gestes, c'est-à-dire que ce que vous faites, c'est en accord avec ce qu'il y a dans votre cœur. Contrairement à l'hypocrite, l'hypocrite dans son cœur, il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi réellement, mais il fait semblant. Donc, le mu'min qui est véridique, c'est que ses actions reflètent la sincérité qu'il y a dans son cœur. Reflètent tout ce qu'il y a de pur et de sincère dans son cœur. Donc, Ali dit que le fait d'être véridique, ça amène vers les bonnes actions, et le fait d'accomplir des bonnes actions, ça amène vers le paradis. Les ulama disent que, comme on a dit en introduction brièvement, quand quelqu'un dit la vérité, et il le dit à chaque fois, il est véridique, Allah Ta'ala lui donne tawfiq d'accomplir les bonnes actions. C'est-à-dire que le hadith dit que parmi les signes d'acceptation d'une bonne action, c'est qu'Allah Azza wa Jal accepte cette personne de nouveau pour faire des bonnes actions. Par exemple, quelqu'un a passé un mois de Ramadan dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. La plus grande preuve que son Ramadan a été accepté par Allah, c'est quoi? C'est al-istiqama. Que la personne, après ce mois béni, va rester dans le droit chemin. Parce que quand Allah Ta'ala aime une personne, Allah Ta'ala le choisit pour être dans le droit chemin. Allah Ta'ala le garde dans le droit chemin. C'est-à-dire quand quelqu'un a passé un Ramadan correct, ou quelqu'un était au Hajj, hein, il en est revenu, ou Umrah, il en est revenu, c'est-à-dire une grande action, et qu'il a été véridique, et Allah, il était sincère, Allah Ta'ala a accepté l'action. La preuve qu'Allah a accepté, c'est qu'Allah va lui donner tawfiq de rester dans le droit chemin tout le temps jusqu'à sa mort. Donc, en étant véridique, Allah Ta'ala nous accepte, nous donne tawfiq encore plus, donc d'accomplir les bonnes actions. Et quand on accomplit les bonnes actions, ben subhanallah, on atteint l'objectif. C'est quoi l'objectif final du mu'min? C'est accéder au paradis. Allah nous a créé pour faire son adoration, et la consécration, la récompense de l'adoration d'Allah, c'est quoi? Qu'Allah est satisfait de nous, qu'Allah nous accorde la tranquillité du cœur de ce dunya, une mort avec la foi, le passage dans la tombe se fait correctement, la résurrection se fait correctement, avec les véridiques, avec les ambiyas, avec les gens pieux, et qu'Allah nous accorde le paradis. Et la solution c'est quoi? Là c'est une piste, être toujours véridique, avec ça Allah vous acceptera pour les bonnes actions, et si Allah vous accepte pour les bonnes actions, Allah Ta'ala vous choisira pour faire partie des gens du paradis. Donc l'objectif est atteint par cette qualité qu'on doit développer, être véridique. Et en commentaire, les ulama disent également, regardez, Allah Ta'ala dit au Coran, فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ. Phase, c'est quoi? Al-Fawz, c'est la réussite, le succès. Et le plus grand succès, c'est quoi? فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ, celui qui s'est protégé de l'enfer, وَدْخِلَ الْجَنَّةَ, et qu'Allah Ta'ala a fait entrer dans le paradis. Ça, c'est un homme qui a réussi. Ça, c'est la conception de la réussite de le dîn. Demandez à quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est quoi la réussite? Il dit la réussite. Il dit que la réussite, c'est faire de brillantes études. La réussite, c'est faire telle école de prépa, telle école de commerce, c'est faire l'ENA, c'est faire Sciences Po, c'est avoir un travail dans telle institution, c'est travailler, etc., avoir avoir un salaire de 10, 15 000 euros par mois. La réussite, c'est avoir une voiture exceptionnelle, c'est changer de Mercedes tous les deux mois. Avoir la réussite, c'est avoir une femme magnifique avec des mensurations exceptionnelles. La réussite, c'est avoir une maison, une villa avec une piscine, avec un ranch, avec des chevaux, avec une piscine, avec. Ça, c'est... Et après, on va causer, que je vais raconter toutes les semaines à venir sur son tête. Ça, c'est la réussite. Mais ça restera du dunya. Pour un mu'min, c'est quoi la réussite? C'est quand je quitte ce dunya, Allah est content de moi. C'est tout. Mais dis au sens deux mots. La réussite, c'est quand je quitte ce monde, Allah est content de moi. Et quand je retourne auprès d'Allah, Allah est content de moi. Et qu'Allah me fait entrer dans le paradis sans rendre compte. Et qu'Allah me protège donc de l'enfer. Celui qui est protégé de l'enfer. Allah, qu'est-ce qu'il demande à chaque mu'min? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahlikum al-faqr, wahlikum al-jou', wahlikum la récession, wahlikum la crise économique. Non. Allah t'a dit à chaque musulman, protégez-vous et protégez votre famille contre. Contre quoi? Pas contre la famine, pas contre les bactéries, pas contre les telles maladies, c'est pas contre la récession. Protégez votre famille contre le chômage, contre la crise économique. Non. Anfusakum ahlikum nara. Ça, c'est mon devoir de papa. Mon devoir de mari, de protéger ma femme et mes enfants de quel grand malheur? Le feu de l'enfer. Même si je suis pauvre, je suis au chômage, je ne compte pas pour les gens, mon nom ne sera pas cité parmi les grands en guillemets, mais mon Allah, mon Khalik est content de moi et il me protège de l'enfer et il m'accorde le paradis. Faqad faz. Et j'ai rempli ma mission. C'est le joie de Subhanallah de la Jannah. Je me retrouve avec ma femme et mes enfants dans le paradis. Qui serait plus heureux que moi? Même si mes enfants n'étaient pas de brillants docteurs, pharmaciens, ingénieurs, avocats ou je ne sais quoi, mais que dans le Jannah ils sont avec moi, avec ma femme, ça veut dire que j'ai rempli ma mission. J'ai été un bon père de famille. J'ai été un bon papa parce que j'ai su garder mon troupeau. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an Raïeti, vous êtes tous des bergers. Chaque berger est responsable de son troupeau. Maintenant, si je laissais ma femme sortir, les cheveux dehors, avec des petits vêtements décolletés, ma fille, elle va au lycée avec taille basse. Un taille basse, c'est en haut, c'est en bas. Avec taille basse, vous voyez, il ne connaît pas, il me dit n'importe quoi. Avec taille basse, avec décolleté, avec comme ça, avec toute affaire, comme tout le monde, avec piercing, de partout le corps, pour que les gens. Et moi, papa, dis rien. Ça, c'est les jeunes, ça. Il ne faut pas les dire. On ne peut pas dire les jeunes, c'est difficile. D'accord. Est-ce que le joie de la résurrection? Moi, j'étais au premier saf. Mashallah, bakoko, l'agbab, vini blanc, dans le droit chemin, alhamdulillah, toujours salat. Mais mes enfants, c'est la fiesta tous les jours. Joie de la résurrection, joie des comptes, Allah Ta'ala me fait entrer dans le paradis. Et encore, me fait entrer dans le paradis si j'ai fait mon travail de papa. Parce que là, je vais un peu vite, là. Dans cet hadith, c'est également qu'Allah Ta'ala va poser des questions à un papa à propos de ses enfants, avant qu'il pose des questions à un enfant à propos de ses parents. Aïe, aïe, aïe. Là, ça blesse. Parce que nous, on sait que le respect des parents, les enfants, ils ont à répondre, joie de la résurrection. On insiste beaucoup là-dessus. Mais il faut voir le problème de l'autre sens aussi. Si moi, papa, je me suis pas senti responsable de mes enfants, je n'ai pas tout fait pour qu'ils restent dans le droit chemin, pour leur accorder une éducation correcte, je suis le premier responsable devant Allah, le jour de Qiyama, le jour des comptes. Vous savez, le hadith, pour samedi, on va enchaîner, puis on ne va pas s'arrêter. On voulait suivre le fil du hadith. Le prophète a dit que parmi les gens, qu'Allah ne regardera pas, le jour des comptes, c'est même pas Allah Ta'ala va l'appeler. Non, Allah Ta'ala ne regardera même pas. Et les ulama disent que c'est un regard de rahma. Allah Ta'ala ne regardera pas cette personne avec compassion. C'est une catégorie de personnes qu'on appelle Ad-Dayyuth. C'est quoi Ad-Dayyuth? Ad-Dayyuth, les ulama disent, dans le commentaire hadith, que celui qui tolère le fahisha de sa famille. Celui qui sait que ses enfants, sa fille ou son garçon, il fait le zina, l'adultère. Ou que sa femme, il fait des choses pas bien avec d'autres personnes, mais il reste tranquille. Il ne veut pas faire de problème dans la famille. Je sais que ma fille, elle a 20 ans, elle est majeure, mais elle va le samedi soir, elle rentre à 5 heures du matin. Je sais, mais je reste silencieux, je dis rien. Ça, c'est un day youth. Il peut avoir la plus grande barbe, plus grand que moi. Il peut avoir tous les titres qu'il veut. Hein. Il peut être le plus grand, l'homme le plus pieux. Mais il est day youth, en attendant, ne le regardera même pas le jour des comptes. Parce qu'il tolère, il accepte. Il n'a pas pris ses responsabilités en main. Alors que si j'ai fait mon effort, j'essaie de rétablir, j'essaie de sermonner et tout, et que la personne n'obéit pas, bah présente-lui Allah. Mais il y a des parents qui sont comme ça. Ils ne veulent pas froisser les jeunes. Ils disent qu'Assim Diyan Zafa, il va fuguer. C'est vrai! Il y a des parents qui disent que si je dis à mon enfant quelque chose, il va fuguer, il va partir. Oui, mais est-ce que votre enfant a confiance en vous? Et la confiance, c'est à partir de quand? C'est quand il a 18 ans? Qu'on expliquait il y a quelques jours en ville, c'est quand il a commencé à boire l'alcool, à fumer du shit et sortir avec je ne sais combien et de filles, et là on va commencer à discuter, il peut aller couler. Discuter c'est quand? C'est quand il a 6 ans, 7 ans. C'est quand l'enfant est petit, je suis papa. Un papa c'est quoi? C'est quelqu'un qui est proche de ses enfants. Toujours proche d'eux, toujours présent, attentif, attentionné, discuter avec eux. Mohabba, de l'amour que je donne à mes enfants. Donner de l'amour, c'est pas donner une PSP à l'enfant. Hein. Donner de l'amour, c'est pas donner une DS à l'enfant. Hein. C'est pas lui donner sa moto à 16 ans. C'est pas lui donner son permis permis accompagné à 16 ans et sa voiture à 18 ans. C'est pas ça aimer l'enfant. Ça, c'est le gâter. Différence entre aimer et gâter, pourrir. D'accord? Aimer, c'est donner du temps. Il y a quelque chose qui ne s'achète pas. C'est le temps. La DS, la PS, la voiture, ça s'achète ça. Si on a de l'argent, on peut. Si on n'a pas l'argent, Dieu n'a pas, il va comprendre. D'accord? Mais le temps, même on est pauvre, on a du temps. On est riche, on a du temps. On est pauvre, on a du temps. Mais donner du temps aux êtres qui comptent pour nous, c'est ça le travail de papa et de maman. Si je ne suis jamais là, je rentre à la maison tard parce que je suis au travail, parce que je suis je ne sais où, et je ne donne pas du temps à mes enfants, et à un moment donné, je constate la catastrophe, la dégringolade totale. On m'annonce que mon fils est zamalien, que mon fils est dealer, mon fils il passe des joints pour pouvoir, il vend 20 joints, il gagne un joint par semaine. Et il est dedans depuis 6 mois. Et j'ai jamais su. Pourquoi t'as jamais su? Ou jamais cause écrit? On a déjà pris le temps, mais t'es assis à table, discuter un petit peu. Mais quand on dit assis à table, cause un peu. C'est pas comme dans une audition de commissariat de police. Que voilà, t'as fait ça, c'est vrai, c'est pas vrai. Non, c'est dès le plus jeune âge, établir une relation de confiance. Si l'enfant sent que le papa l'écoute, l'enfant va aimer le papa. Ça, c'est naturel, ça. Ça, c'est l'amour qu'Allah a mis dans le cœur des êtres humains. C'est des sentiments humains. Il faut aller vers les sentiments humains et il y aura du respect. Le respect, là, c'est pas avec deux claques. Hein. Le respect, c'est pas des coups de bâton. Le respect, c'est pas en punissant, c'est pas en hurlant, en criant sur la personne. Il y a des enfants, j'ai déjà vu des personnes, que le parent crie tellement que s'il crie pas, l'enfant, il comprend pas, il y a un problème. C'est-à-dire, à force de crier, à un moment donné, ces cris ne servent plus à rien. Ce n'est pas la bonne méthode. On n'aura pas le respect et l'estime de l'enfant par la violence ou même par l'excès de langage. C'est par le temps qu'on donne, l'amour qu'on donne. Donc bref, pour revenir. Donc ça, à Dayouth, il faut faire très attention. Quelqu'un qui tolère, qui accepte que dans sa famille, il y a des gens qui font des choses mauvaises. Donc là, je serai un mauvais papa. Il y a des gens qui se disent que, écoute, moi je suis ouvert d'esprit, moi ma fille, elles sont avec tel garçon, ils vont sortir ensemble 2 ans, et après ils auront leur diplôme, ils vont travailler, là ils vont se marier, moi je suis un bon papa, je suis compréhensif. Tu es compréhensif? Tu as laissé ta fille, tu as laissé la foi de ta fille quitter son cœur plus d'une fois par jour. C'est ça un bon papa? Quand quelqu'un fait le zina, le iman ne peut pas rester dans ce corps. C'est pas que son akhlaq, son iman, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, quitte le corps de la personne. Parce que le iman ne peut pas rester dans le corps de quelqu'un qui fait l'adultère. 2 ans, j'ai laissé ma fille sortir avec ce garçon, le temps qu'il trouve un travail, une situation, etc. Et ensuite, ils se marieront. Là, j'estime que j'étais un bon papa. La a'ouzou billah. Wallahi, mes chers frères, qu'Allah illumine nos cœurs, nous guide, nous fasse comprendre quelle est notre responsabilité à l'attention de notre enfant. Et vous savez, en protégeant vos enfants, hein, je ne parle pas de restrictions fermées à clé et tout, mais avec la communication sensibilisée, faites ta'alim à la maison, ça c'est important qu'il y ait un message de dîn à la maison. On expliquait encore, ça n'y a quelque temps, que chacun choisisse son livre. Vous aimez tel livre, prenez tel livre. Vous aimez Bukhari Sharif, Bukhari. Vous aimez Riyad al-Salihin, Riyad al-Salihin. Mais il faut qu'il y ait parole de dîn dans la maison. Autrement, qu'est-ce qu'il y a dans la maison en permanence? Vous rentrez dans une maison, musulman, non-musulman, il y a la télé en permanence, il y a la musique. Il y a un qui dit télé, dit musique également. C'est-à-dire, il y a Shaitan qui est en permanence dans la maison. Quand Shaitan est dans la maison, est-ce que les anges viennent? Non. Ce sont deux mondes qui ne se côtoient pas. Les anges qui dégagent Shaitan quand il veut. Mais quand il y a Shaitan, les anges n'y viennent pas. Parce qu'il y a des choses mauvaises. Les anges sont des créatures pures. Tandis que quand on lit les paroles d'Allah Azza wa Jal, les paroles du prophète alayhi salatu wa salam de la maison, là il y a les malaïkas qui vont venir. Donc le ta'lim à la maison, c'est extrêmement important. Un, le repas familial, c'est extrêmement important. Que quand c'est le dîner, tout le monde est à table. Papa, maman, les enfants. Que mon fils ait 23 ans, qu'il soit 1m90 comme Jimba Youssouf, ou qu'il est plus petit, qu'il ait 7 ans, 8 ans, tout le monde à table en même temps. Et c'est le moment où on peut discuter. C'est le moment où le papa monte également, c'est lui le père. Ce qui fait comprendre l'autorité ici qu'il détient, c'est le papa, qui montre que le respect lui revient. Et c'est là qu'on peut parler du dîn, c'est là l'occasion unique avec la société de nos jours, comment les choses vont vite, c'est le moment de parler de la parole d'Allah, de parler de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et ce sera le peu d'efforts qu'on pourra faire à l'attention de nos enfants. Parce qu'à l'extérieur, ils entendent tout ce qui est mauvais, qui rentre de leur esprit, de leur cerveau, jusqu'à faire d'eux des gens comme tout le monde, qui n'ont pas la foi. Et c'est à nous de rétablir la vérité. Donc, pour revenir au verset, protégez-vous, protégez vos familles de l'enfer, c'est de cette façon. Et ne croyez pas que on a été un mauvais papa si on a empêché notre garçon de 18 ans de sortir d'aller en boîte. Non, au contraire, on l'a protégé d'un fitna. On l'a protégé de l'alcool, on l'a protégé de la drogue, on l'a protégé du zina, on l'a protégé de beaucoup de choses. Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je ne vois plus aussi où est-ce qu'on était. Et khair, Inch'Allah. Mes chers frères, et vous savez, l'éducation, c'est quelque chose de difficile. On vit dans une époque compliquée. D'année en année, de jour en jour, je dirais même plus, la situation de la Oumma se dégrade. Et ça, c'est hadith. Ça m'a dit, annoncer qu'à la fin des temps, le zina deviendra normal. Les gens vont boire de l'alcool. Les hommes vont se suffire à des hommes. Les femmes vont se suffire à des femmes. Tous les péchés, tous les ahwal que nous voyons, ont été annoncés il y a 1500 années par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est une dégradation des mœurs, d'une manière générale, qui va continuer, qui va s'accentuer jusqu'à la venue d'Imam Mehdi, la venue d'Ad-Dajjal, la venue etc., etc. Ce sont les petits signes de Qiyama. Et celui qui reste ferme de son dîn, c'est quelqu'un qui a de la valeur pour Allah Azza wa Jalla. Ça m'avait dit une fois, sahaba, j'aimerais rencontrer mes frères. La radio prophète d'Allah, Alasna ikhwanuk, nous sommes tes frères. Le prophète dit non, bal antum ashabi, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont des gens qui vont venir après, qui ne m'auront pas vu. Il y a des gens qui vivent des époques, on pourrait interpréter ça, qui n'ont pas vu le wahi, qui n'ont pas vu la révélation. On n'a pas vu le prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas vu la société idéale à Makkah, à Madina. Non, on vient bien après, on connaît des situations compliquées, mais on croit en Allah, on croit au prophète alayhi salatu wassalam. Et les quelques erreurs qu'on va faire, Allah ta'ala va nous pardonner, Inch'Allah. Chers frères, un petit message à faire passer également. Là, il y en a qui ne seront pas contents avec moi. On a fait un rassemblement de jeunes, il y a 2 semaines, à la mairie de Saint-Denis. On avait 480 jeunes à peu près, alhamdoulilah. Et sans faire de distinction ethnique entre arabes, comoriens, maoris, malgaches et tout, on avait alhamdoulilah la moitié de la salle. La plupart, c'est beaucoup de sanistes et mes élèves, anciens élèves de Saint-Clotilde et de Moufia, de la communauté comorienne et maoraise. D'accord ? Et on avait des questions orales, des gens qui prenaient le micro pour parler, etc. Et puis on avait des questions écrites. Ceux qui écrivaient les questions, c'était anonyme, c'est-à-dire des gens qui avaient honte de parler de ce genre de problème. Et très souvent, par rapport aux signatures, par rapport aux noms, on a remarqué que dans la communauté comorienne maoraise, il y a un certain malaise de la part de nos jeunes. Je dis avec beaucoup de franchise, parce que c'est notre travail. On est imam, s'il y a un problème, on doit le dire. Dans la communauté, il y a beaucoup de jeunes, 18, 19, 20 ans, qui veulent se marier, qui ont besoin de se marier, mais disent que nos parents... C'est là je dis que vous n'allez pas être content avec moi. Ne me chassez pas dans la masjid. Écoutez, c'est des paroles de sidr. Je le dis une fois et qu'Allah illumine nos cœurs. Dit que parfois, on a nos parents, nos grands-parents qui sont tellement attachés à des traditions que telle tribu se marie avec telle tribu, tel machin. Il nous dit qu'on est obligé de rester dans l'adultère, dans le zina. Parce que nos parents sont opposés à un mariage. Alors mes chers frères, il faut qu'on va beaucoup plus loin. Il faut qu'on se dise que le prophète alayhi salat wa salam dit que إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ. En ce sens, وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Quand quelqu'un, un garçon vient, il vient vous voir, vous dit que je veux épouser ta fille, et que vous voyez que ce garçon-là, il a les qualités du mu'min. Regardez son din, regardez son akhlaq, son comportement. Alhamdulillah, tout va, tout est correct. D'accord ? Il ne faut pas regarder d'autres choses, mes chers frères. Il ne faut pas regarder d'autres choses, que lui, il est de telle en région. Dans toutes les communautés, c'est comme ça. Hein? Nous, on est descendants indiens, c'était pareil. Hein? Baysab, Surti, Gamalia, Calcutta, la Chepala de Bengali. Malheureusement, dans toutes les communautés, vous voyez que chez les Saoudiens, c'est pas pire. Kabila, lui c'est Harbi, lui c'est Umari, lui c'est tel, lui c'est grand tribu, lui c'est petite tribu, il ne mariait pas. Malheureusement, ça c'est, on va dire, passez-moi le mot, excusez-moi, un peu de jahiliya. Ça c'est du jahiliya dans toutes les communautés. Je n'ai pas été en Asie pour voir si les Indonésiens, les Malaisiens, ça c'est pareil, mais très souvent il faut que moi j'appartiens à tel degré de la société. Moi je suis une grande famille, lui c'est petite famille, je ne vais pas donner ma fille à petite famille. Non mes chers frères. Le prophète Ali Salat wa Salam nous a enseigné que nous sommes tous des frères en Islam. Il n'y a pas de grande famille, il n'y a pas de petite famille. La seule chose qui compte, c'est Iman. Vous donnez votre fille à un garçon de grande famille, il va vous donner une dot. Il va donner une dot de 25 000 euros. Il va faire un grand mariage. Tout le village est invité. Il y a toutes les. Mashallah, on est fiers. Mais ce garçon-là, il n'a pas digne dans sa vie. Il va maltraiter votre fille que vous avez. C'est votre joyau, ça, votre fille. Votre fille, c'est votre trésor, ça. Vous l'avez éduqué, subhanallah, vous l'avez donné de l'amour. Et quelqu'un va le prendre, et vous l'avez enseigné à Salah depuis qu'elle est petite, et lui va dire que non, toi, ton papa était un intégriste, il n'y a pas besoin de faire la prière. Nous, samedi, on va aller à tel endroit, on va aller au cinéma, on va aller à telle chose, on va manger restaurant. Ça, ça n'existe pas, halal haram. C'est fini, on est dans un pays laïque, on mange ce qu'on veut. Il n'y a pas les traditions, ça, c'est les vieux, ça, les traditions. Ah, au Comore, ils mangent halal, ici, on est en France. Tous les efforts que vous avez faits sur votre fille, sur votre enfant, vous allez le perdre. Pourquoi ? Parce que vous pensiez bien faire en mettant cette fille dans les mains d'une personne de telle qabila, de telle tribu, etc. Parce que lui, il est aisé, lui, il est tel machin, il est reconnu, on aura l'honneur de la part du village. Mais ce n'est pas ça le critère. Le critère, c'est le din. Si c'est quelqu'un qui même n'est pas riche, il n'appartient pas à de grandes familles ou autre chose, mais il a din, il a amour d'Allah dans son cœur, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vos enfants. Donc, je ne fais que relayer un message de la part de beaucoup de jeunes de la communauté confondue, mahoraise et comorienne. Ils ont dit que Moulissab, il y a un problème. Et il y a beaucoup de cas, j'ai les questionnaires chez moi, Allah Akbar, si vous voulez, je vous montre combien de personnes disent qu'on a tel problème. On veut se marier, mais nos parents sont opposés. Moi-même, j'ai des élèves qui viennent prendre les cours d'arabe avec moi et disent, voilà, je ne vous dirai pas si c'est comorien ou mahoraise, il ne faut pas penser personne. Et mon propre élève qui fait cours d'arabe avec moi m'a dit, voilà, je veux demander la main de cette fille, hein, mais le grand-père qui est là-bas encore de le pays, hein, chez les Français, on dit de le bled. Ici, on ne parle pas comme ça. Là-bas, lui, il a dit, le papa est d'accord, mais le grand-père là-bas n'est pas d'accord. Parce que c'est tel machin, telle région et tout, ça se fait pas comme ça. Et de jeunes qui s'aiment, qui veulent être dans le halal, qui veulent être dans le licite. On se pose la question, si on a empêché ces jeunes d'être dans le licite, ils ont sombré dans le haram, quelle réponse on aura à rendre le jour des comptes? Quand il y a le jour qiyamat là, ou même dans la tombe là, Kiraman Katibin, Yalamuna Matafanizin, est-ce qu'il y a les bonnes actions? Et les anges dans la tombe là, ils vous demandent quoi? Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Que connais-tu à propos de cet homme, Nabi Ali Salat, tout ça? Il ne veut pas vous appartenir à quelle région, là, wallah. Donc on doit bien faire attention. Hein. Il y a sept des fitnas, mais on est capable d'aider nos jeunes. Et je suis d'avis également, et là on parle d'une manière générale, dans toutes les communautés confondues, hein, quand vous avez des jeunes qui ont 20 ans, 21 ans, d'accord, et qu'ils n'ont pas encore eu leur diplôme. Mais vous savez que c'est difficile, à 20 ans, 21 ans, se protéger, c'est compliqué. Et qu'il faut un peu d'ouverture d'esprit de la part des parents. Ce message-là, je le fais passer ici, mais en ville, je le fais passer à Montreuil, la tenez pas à tout, d'accord. Quand vous voyez des jeunes qui s'aiment sincèrement, mais c'est pas comme les petits amoureux de la cour de récréation, il a 10 ans, 12 ans, aujourd'hui il aime Julie, demain il aime Christine, demain il aime Fatima, après il va aimer. Non, c'est pas ça, c'est vraiment sincère. Vous savez qu'ils veulent construire une vie commune ensemble, mais D'accord, ils n'ont pas le diplôme, ils n'ont pas le travail, ils ne sont pas encore autonomes financièrement. Je dois faire un effort. Moi, papa, maman, on doit essayer de trouver une solution intermédiaire. La solution intermédiaire, c'est quoi? C'est de permettre le nikah sans vie commune. Ça, c'est possible. Demandez vos fundi, ça, c'est possible. Il y a quelque chose qui s'appelle le mariage. Après, il y a dukhul, la vie commune. Mais on dit que, ok, vous vous aimez, vous vous fréquentez déjà, khalas, on fait votre nikah, mais la vie commune, ça commencera en 2015, par exemple, quand tu auras ton master, quand tu auras ton doctorat, ton travail, ton je ne sais pas quoi. Mais entre-temps, subhanallah, on a évité à nos enfants de faire l'adultère. Donc, il faut réfléchir à ça, protéger nos enfants en ayant d'autres perspectives, une certaine ouverture d'esprit. C'est difficile, mais qu'Allah nous accepte de le faire. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.